taille 1m40, poids 45 kg. Romeo sera programmable et il intégrera les applications à la demande comme un vulgaire smartphone. Il dialoguera avec vous, il appellera vos amis, il appellera l'épicier du quartier pour passer commande pour vous. Il est sans aucun doute qu'il est celui qui remplacera votre personal computer à la maison. Romeo sera aussi en mesure de lire les histoires à vos enfants, de lire vos livres préférés ou vos journaux préférés en se connectant directement à Internet. Alors je me réjouis de m'en procurer un dans notre vieil âge. Alléluia! Il est sans aucun doute incroyable de voir combien le monde, par le biais de la science et des innovations technologiques, avance dans leur domaine. L'exemple que je viens de vous donner est dans le domaine de la robotique. Voici quelques autres exemples. Dans le domaine de l'automobile, par exemple, on assiste peu à peu aux automobiles qui se gèrent toutes seules. Le matin, vous vous préparez pour le travail, vous prenez votre petit déjeuner, vous êtes prêt à partir. Et à l'heure de partir, vous prenez votre téléphone, vous appelez votre voiture qui sort du garage toute seule et qui vient vous chercher devant la porte. Vous rentrez, vous introduisez la destination dans le GPS, rien d'autre à faire pour vous. Il vous reste peut-être deux options. Soit continuer votre sommeil, soit étudier vos dossiers. La voiture vous conduit à destination. Que dire du stockage moléculaire des données, de l'imprimante 3D? Que dire des progrès dans la médecine? Cependant, lorsque l'intelligence humaine se trouve confrontée aux questions existentielles telles que d'où vient l'homme? Pourquoi suis-je ici? Où est-ce que je vais? Quelle est ma destinée? Quel est le sens de cette destinée? Ou lorsque le monde, par sa sagesse, essaie de définir ce qu'est Dieu, ce qu'est la morale, ce qu'est le vrai bonheur, ce qu'est la paix véritable. Alors là, mes amis, tout va de travers. Tout va de travers. À la question d'où vient l'homme, le monde répond l'évolution. Et nous assistons progressivement au remplacement de l'enseignement à l'école de l'évolution en lieu et place du créationnisme. Et nos enfants seront contraints tôt ou tard d'apprendre uniquement l'évolution, plus de place pour le créationnisme. À la question « Qui suis-je ?», le monde répond « La philosophie », qui est, tenez-vous bien, la recherche par l'observation de la connaissance et du raisonnement, de la compréhension du réel, considéré à son plus haut degré de généralité. Pour faire simple, la philosophie est en gros la tentative de compréhension de notre monde et de nous-mêmes. C'est considéré comme l'étude de la sagesse ultime. Le texte que je vais analyser ce matin se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et merci à Jackson de l'avoir lu tout à l'heure. Le problème principal de l'épître de Corinthe, c'était leur incapacité à être non conformiste. Je m'explique. Romains 12, 1 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Les Corinthiens étaient dans une société terriblement immorale d'une part et très intellectuelle d'autre part. Un monde fondé sur la raison et les convoitises des hommes. Cela vous fait penser à notre société aujourd'hui. Est-elle si différente que cela? Je ne pense pas. Voyez-vous, lorsque certains d'entre eux sont devenus chrétiens, ils ont embarqué avec eux ce genre de comportement immoral et rationaliste dans l'Église. Le but de cette épître de Paul aux Corinthiens était de les amener à couper le cordon ombilical de leur ancienne vie mondaine, à la fois sur le plan philosophique que sur le plan moral. Ainsi, Paul a écrit une longue section que nous voyons du chapitre 1, verset 18, au chapitre 3, voire même une partie du chapitre 4, dans lesquelles il les exhorte vivement à rompre avec les philosophies humaines, à rompre avec la manière de penser humaine. Dans ces passages, Paul leur fait savoir que face aux questions existentielles de la vie, la sagesse humaine est non seulement inutile, mais qu'elle n'a rien, mais rien à leur offrir. D'où le titre de mon message ce matin, « La merveilleuse sagesse de Dieu ». Dans le passage que nous allons analyser ce matin, Paul continue son argumentation, appuyant le fait que nous ne pouvons compter sur la sagesse humaine pour accéder à Dieu et à sa merveilleuse sagesse. D'où mon premier point, la définition de la sagesse divine. Dans les versets 1 à 5 de 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul va illustrer le fait que nous n'avons pas besoin de la sagesse humaine. Il dit ceci: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En d'autres mots, Paul dit, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas allé puiser dans les philosophies humaines. Je ne suis pas allé puiser dans la sagesse humaine, dans l'approche qui a été la mienne lorsque je suis venu à vous. C'est marquant, n'est-ce pas? Au verset 2, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je ne suis pas venu à vous avec des expressions sophistiquées ou avec une philosophie sophistiquée. Je suis venu à vous avec simplicité. Voyez-vous, l'Évangile n'a pas besoin qu'on y rajoute de la philosophie humaine. Nous avons besoin des innovations humaines, mais Dieu n'a pas besoin des innovations humaines. Tout ce que nous rapporte l'Évangile est vraiment simple. L'apôtre Paul, étant arrivé à Corinthe, se mit à prêcher Christ. Pas n'importe lequel. Il s'est mis à prêcher Christ crucifié. C'est cela la définition même de la sagesse divine. Allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 23. Nous lisons ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Regardez la suite. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Paul donc prêche la sagesse de Dieu et ils répondent sottise, stupidité. C'est en cela qu'est le scandale pour les Juifs et la folie pour les païens. Ils considèrent que ceci est un non-sens. S'adressant à Paul, ils disent « Espériez-vous, monsieur Paul ?» que nous, les intellectuels, avec toute notre sagesse que nous avons acquise et toute notre éducation et toutes nos philosophies sophistiquées, voulez-vous que nous croyions à cela? Que nous croyions qu'à une époque, un tel est mort sur une croix et cela est le cœur de la destinée de l'humain? Tais-toi, Paul. Je ne sais pas vous, mais j'entends encore cela aujourd'hui. Beaucoup de gens me disent la même chose. Ils disent que c'est pour les gens simples d'esprit, c'est pour des enfants. Ou ils vous le font comprendre sans l'exprimer clairement. Selon eux, aucun homme intelligent ne peut croire cela. Pourquoi cela? Pourquoi une telle réaction? Plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Premièrement, car il y a une claire distinction entre la sagesse divine et la sagesse humaine. Cette distinction est basée sur la distance entre l'homme et Dieu. La sagesse de Dieu créateur est infinie et incompréhensible pour les créatures de Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'homme est limité à tout point de vue. De ce fait, toute sa sagesse ne peut en aucun cas être comparable à celle de Dieu. Regardez avec moi Ésaïe 55, des versets 5 à 8. Nous lisons ceci. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Romains 11, 33, 36 décrit le fait que les voies de Dieu sont insondables. Une autre raison, c'est que si nous prenons l'analogie de l'argile et le potier, Romains 9, les versets 20 à 21 nous dit ceci, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil ? » Pour terminer ce point, je souligne le fait que la sagesse humaine est limitée et elle a une utilité limitée. Et celle-ci est incapable de répondre aux questions existentielles de base. Tandis que la sagesse de Dieu va bien au-delà. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Ceci nous amène au deuxième point que j'ai intitulé « Les destinataires de la sagesse divine ». Maintenant, regardez au verset 6. Paul continue en disant « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Arrêtez-vous là. Au début de ce chapitre, Paul dit « Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc, pas à la manière humaine sophistiquée. Et quand bien même vous pourriez considérer cette approche comme folie ou même que vous la trouveriez trop simpliste, ici au verset 6, il commence par l'adverbe « cependant » indiquant le fait qu'il s'apprête à faire un contraste. Le monde, les non-croyants, considèrent comme folie l'Évangile, avis ici même rejeté par Paul, où nous le voyons appuyer le contraire. Il dit « Nous proclamons la véritable sagesse ». Certes, la société qui nous entoure ne verra pas les choses de la même manière que nous, c'est bien normal. Quant à nous, que devons-nous faire? Devenir conformistes? Non, nous ne le pouvons, car Romains 12, 2 est clair. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne pouvons devenir conformistes. Et par conséquent, nous devons rejeter la sagesse humaine, rejeter la raison humaine en ce qui concerne les choses de Dieu. Car celle-ci est basée sur une philosophie qui ne peut sauver, les amis. Avez-vous peut-être réalisé qu'avec toutes les philosophies et tous les philosophes de tous les siècles, l'homme n'est pas devenu meilleur? Et bien au contraire, l'état de l'homme n'a fait qu'empirer. Il y a davantage de guerres, davantage de crimes, davantage de violences. Et cela est le fruit de la sagesse du monde, les amis. Paul dit, nous proclamons la véritable sagesse. Il rajoute un détail stupéfiant, toujours au verset 6, parmi les parfaits. Par cette appellation, Paul désigne ceux qui sont sauvés. Car le terme grec pour ce mot veut dire ceux qui sont accomplis, qui sont menés à la perfection, qui ne manquent de rien pour leur plénitude. Seuls ceux qui sont ainsi caractérisés par une telle qualité sont en mesure de voir dans l'Évangile la sagesse véritable. Les seules personnes qui connaissent et comprennent cette sagesse, ce sont les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Peut-être vous rappelez-vous comment vous perceviez l'Évangile avant de devenir enfant de Dieu. Moi, je me rappelle, car issu d'une famille catholique peu pratiquante, j'étais très cartésien, je le suis encore, mais de façon différente. Je disais, cela n'a aucune profondeur. Peut-être avez-vous réagi de la même manière. Je disais, cela ne va nulle part, ça n'a pas de fond. C'est pas pour moi, c'est léger. C'était un non-sens pour moi. Lorsque j'entendais dire « Christ est mort à la croix et qu'il a pris sur lui tous tes péchés », pour moi, ça passait, ça tournait en boucle, ça passait au-dessus de ma tête. Ça n'avait pas de sens. Cependant, lorsque vous et moi sommes devenus chrétiens, soudainement, toute la portée de l'Évangile a revêtu la profondeur qui nous était inaccessible et insondable précédemment. Vous êtes bien d'accord? Et plus nous avançons dans notre marche chrétienne, plus nous avançons dans cette profondeur, n'est-ce pas? C'est de cela qu'il est question ici. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ perçoivent la sagesse de Dieu dans l'Évangile. À l'opposé, il s'agit d'une folie pour les incrédules de ce monde. Le contraste se fait entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 18. Nous voyons ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi Paul dit, oui, nous prêchons la sagesse, et cette sagesse est destinée à toute personne qui accepte de croire en Jésus-Christ. À partir d'ici, Paul divise le reste du texte en deux grands points. Ceci nous amène à mon prochain point, mon troisième point, que j'ai intitulé « La source de la sagesse divine ». Premièrement, la sagesse divine ne peut pas être humainement découverte. Elle ne peut pas être humainement découverte. Vous ne pouvez pas trouver Dieu par vous-même. Vous ne pouvez pas faire comme Superman qui rentre dans une cabine téléphonique en état d'homme naturel et en ressort en état d'homme extraordinaire, d'où le nom Superman. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas transcender le naturel ou surpasser l'humain. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu de la même manière que quelque chose d'inférieur à vous ne peut pas vous comprendre. Si, je ne sais pas si vous avez déjà eu à intercepter une discussion entre deux insectes, par exemple. Je dirais entre deux punaises qui parlent d'anatomie. Lorsqu'ils auraient compris quelque chose, les amis, il sera trop tard pour eux. Il sera trop tard. Vous ne pourriez jamais par vous-même connaître Dieu, peu importe votre persévérance, peu importe vos expériences spirituelles, car vous ne pouvez passer outre le confinement de votre existence humaine naturelle. Vous êtes coincé, vous êtes dans un monde naturel. Quand bien même toutes les religions du monde tentent à mettre en avant les efforts de l'homme pour découvrir ou pour trouver Dieu, le christianisme dit, vous ne pouvez pas trouver Dieu. Pourquoi? car c'est lui qui vous trouve, c'est lui qui nous a trouvés, et c'est lui qui vous trouvera si vous n'êtes pas en Christ. Luc 19, 10 nous dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit, car le Fils de l'homme est venu faire quoi ? Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous donnons toujours notre témoignage, j'ai trouvé Dieu comme ceci, j'ai trouvé Dieu comme cela, mais mes amis, Dieu n'était jamais perdu. C'est nous qui étions perdus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est nous qui étions perdus. Si nous avions à le chercher, nous serions dans la confusion la plus totale, les amis. Dieu merci, car il est venu et il nous a sauvés. Amen. Paul continue en disant au verset 6b, « Sagesse qui n'est pas de ce siècle. » Mes amis, cette sagesse ne trouve pas son origine dans ce siècle, à prendre dans le sens de cette ère, cette époque qui passe avec toute chose temporelle. Ni des chefs de ce siècle fait allusion à ceux qui sont considérés de haut rang social parmi les hommes. La source de la sagesse, de cette sagesse, n'est pas non plus de notre époque. Sachant que chacune des époques de l'histoire a toujours véhiculé une philosophie différente, n'est-ce pas ? Car les philosophes vont et viennent. Je vous invite à additionner tout ce qu'ont dit les philosophes de tous les siècles et évaluer le résultat, en fait, pas grand-chose. Ainsi, les dires de Paul nous aident à réaliser que cette vérité ultime, absolue, est en dehors des limites de l'homme. Elle est en dehors de notre sphère. Nous prêchons la sagesse et les croyants la comprennent comme telle. Ce n'est pas la sagesse de notre système de valeurs à nous. C'est la sagesse de Dieu. Et la raison pour laquelle le monde ne peut pas la saisir est simple. Regardez au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Mes amis, l'homme ne peut pas connaître la sagesse de Dieu car Dieu ne lui a pas donné de savoir. C'est aussi simple que cela. Il a placé ce savoir en dehors de ses capacités humaines, aussi grandes que celles-ci puissent être. Dieu l'a placé en dehors de sa portée. L'adjectif mystérieux utilisé ici ne signifie pas quelque chose de cultuel, relatif à un culte, ou relatif à un clan, ou à un puzzle, ou à un labyrinthe. Il n'a rien à voir avec quelque chose qu'il faut chercher pour trouver comme on cherche son chemin. Ce n'est pas du tout cela. Mystérieux signifie, écoutez bien, un secret qui est impossible aux hommes de pénétrer, mais que Dieu a choisi de révéler. Quelque chose que l'homme ne peut connaître, mais que Dieu a révélé et révèle encore. Regardez Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27, nous lisons ceci. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, écoutez bien, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ainsi, le monde bute dans l'impossibilité des hommes de savoir les secrets de Dieu, et c'est l'amour de Dieu qui rend accessible cette connaissance. Le verset continue au verset 7 en disant « Dieu, avant les siècles, avait prédestiné ». C'est en contraste direct avec ce siècle, décrit plus tôt au verset 6b. Dieu est en dehors du temps. Dieu a prédestiné, c'est-à-dire Dieu nous avait, vous et moi, à l'esprit, en pensée, quand il a prédestiné ce plan. Donc, d'une part, il la cacha, et d'autre part, en Christ et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il le révèle. L'apôtre Paul se présente lui-même comme le dispensateur des mystères, celui à qui il a été donné d'ouvrir les mystères. Puis il a plu à Dieu de nous révéler à nous aussi ces mystères, ces choses qui jadis étaient cachées au travers de l'histoire, Dieu nous les a révélées. Pour quel but? Regardez la suite du verset. Pour notre gloire, poursuit le texte. Pour notre bénédiction, notre excellence éternelle. Imaginez un instant. Il a fait cela avant le début du monde et pour toute l'éternité. Dieu a planifié et accompli notre bénédiction éternelle. Dieu a planifié et accompli cette bénédiction au temps marqué. Il a révélé le mystère. N'est-ce pas magnifique? Au verset 8, nous avons une illustration vivante de ce fait. Regardez. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Quoi? Crucifier le Seigneur de gloire. Écoutez, à quoi se réfère-t-il ici? Regardez. Aucun des chefs de ce siècle, dit le verset. Dans quel siècle vivait Paul? Dans la période du Nouveau Testament. Qui étaient les chefs à cette époque-là? Ce sont les leaders juifs et romains. Paul dit, je vais vous donner une illustration du fait que le monde ne connaît pas Dieu. Que les leaders de ce monde ou de ce siècle n'ont jamais connu Dieu par les moyens qui étaient les leurs. Regardez par exemple les chefs juifs et romains qui régnaient en ce temps-là. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et la preuve pour cela, comme nous voyons dans la suite, toujours au verset 8, on dit « car s'ils avaient connu la vérité, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire ». Le Dieu de toute excellence, c'est simple et c'est clair. C'est ça l'évangile. Quelle belle illustration. J'aime beaucoup la manière dont il le nomme ici. Le Seigneur de gloire. En contraste avec l'humiliation de la crucifixion. Ainsi Paul fait un contraste entre la honte de la croix d'une part, et la gloire de celui qui est crucifié. Puis il montre jusqu'où la véritable sagesse humaine peut aller. Les Romains, avec tout leur Dieu avec petit d, et toute leur religion, n'ont jamais connu Dieu avec grand D. Ils l'ont crucifié. Tous les Juifs, avec toute leur connaissance, ne l'ont pas connu. Ils l'ont crucifié. Quelle méconnaissance de la vérité, les amis. Vous me poserez la question, mais comment se fait-il qu'ils ne puissent savoir? Comment se fait-il qu'ils ne puissent, que ceci leur soit autant caché? Alors regardez la suite. Le verset 9 nous donne la réponse. Il dit, mais comme il est écrit, citant Ésaïe 64, verset 4, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si nous regardons de près le contexte d'Ésaïe 64, 4 qui est cité ici par Paul, nous pouvons lire ceci. Dans Ésaïe 64, 3, on lit que Dieu fait des choses que nous ne prévoyons pas. Dans Ésaïe 64, 6, on lit « L'ensemble de nos soi-disant bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. » Ésaïe 64, 8 proclame « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Donc, nous voyons que le contexte original de la référence de Paul ici indique clairement une distinction, une différenciation entre le Créateur et la créature. Nous voyons donc que la sagesse divine trouve sa source en Dieu seul, qui dans les temps passés a préparé des choses fantastiques pour ceux d'entre les hommes qui l'aimeraient. Excellent, n'est-ce pas? Mais ceux d'entre les hommes qui ne l'aiment pas ne peuvent pas savoir ce que pourraient être ces choses. Voyez-vous, le monde dans sa quête de la vérité ne peut pas comprendre ce qui se passe. Cela souligne le fait qu'aucune des créatures de Dieu ne peut vraiment comprendre les voies de Dieu par des moyens naturels. C'est pourquoi nous avons désespérément besoin de la suite des événements, de ce que Paul va maintenant nous dire dans la section suivante. Le prochain point, je l'ai intitulé « La diffusion de la sagesse divine ». D'un point de vue purement humain, il y a deux options, deux moyens possibles à l'homme pour parvenir à la compréhension des choses. Il y a deux voies permettant à l'homme de tirer une conclusion à tout ce à quoi il est confronté au quotidien. Le premier moyen, c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale ou de façon empirique. Le verset 9 de notre texte nous dit « Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. » On s'arrête là. Maintenant, si vous avez des lunettes de la vérité objective, sur quoi vous basez-vous pour tirer vos conclusions? Sur ce que vos yeux voient et sur ce que vos oreilles entendent, nous sommes bien d'accord. C'est ainsi que vous accédez à la vérité. Eh bien, chers amis, retenez ceci, toute la vérité de Dieu ne peut pas être vue au travers d'yeux humains. Et toute la vérité de Dieu ne peut pas non plus être entendue par l'oreille humaine. Ce n'est pas possible. Toute la vérité divine ne peut pas se voir ou s'entendre. Non, l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu, car ce plan, suit le verset, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Cela n'est pas observable au télescope de façon externe. Vous ne pouvez pas découvrir Dieu comme on découvre une nouvelle planète, par exemple. Vous ne pouvez pas découvrir Dieu de façon, je dirais, empirique, expérimentale. Ceci nous amène à regarder le deuxième moyen utilisé par l'homme pour tirer ses conclusions. C'est par la raison ou la logique. Allons donc à l'intérieur. L'autre manière de procéder des hommes pour tirer leurs conclusions, donc la raison. Le verset 9 nous dit « Choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme ». Le cœur ici veut simplement dire la pensée. Vous ne pouvez pas accéder depuis l'extérieur de façon objective, par des faits objectifs. Vous ne pouvez pas y accéder depuis l'intérieur par des pensées subjectives, par le procédé de la pensée. Donc, vous ne pouvez pas venir à Dieu par des observations ou par rationalisme. C'est de cela qu'il est question ici. Si mon message s'arrêtait ici, ce serait vraiment sans espoir, n'est-ce pas? Dieu détient un grand plan pour ceux qui l'aiment. Dieu l'a certes caché. Cela n'est pas connu des grands de ces siècles. Cela a été prouvé par le fait que s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Par conséquent, tous ceux qui aujourd'hui continuent de rejeter Jésus-Christ prouvent continuellement et continuellement qu'ils ne peuvent pas accéder à la vérité, n'est-ce pas? Ni par leur sens, ni par leur raison, qui à eux seuls ne les y conduiront pas. Ceci est le premier point de l'argumentation de Paul, parfaitement souligné ici. La sagesse divine ne peut être découverte par la pensée humaine. Ceci nous conduit au deuxième grand point de l'argumentation de Paul, que nous allons rapidement parcourir. La véritable sagesse est révélée par le Saint-Esprit. Voyez-vous, si nous ne pouvons pas parvenir à Dieu par nos moyens, il est clair que c'est Dieu qui doit venir à nous avec l'information dont nous avons besoin. J'ouvre une parenthèse ici. Nous avons chez nous, dans la cour, un envahissement de mulots. Ils font des trous partout dans la pelouse, c'est terrible. Comment les faire fuir afin de les éviter, avant de les épargner, le projet que j'ai de les exterminer. Comment faire? Le seul moyen, les amis, c'est que je devienne un mulot. C'est le seul moyen. Que je me balade dans leur galerie, que je parle leur langage, et que je leur annonce leur fin prochaine. Les gars, tirez-vous d'ici, car vous allez périr. Il en est de même pour les êtres humains. Car que ferait un pécheur entre les mains d'un Dieu en colère? Ce qui doit l'aider à éviter la colère à venir de Dieu devrait venir de l'extérieur de son système. Sinon, il n'y a pas d'espoir et aucune issue possible, les amis. Et c'est de cela qu'il est question ici. Le Saint-Esprit doit entrer dans la boîte fermée de l'homme avec la vérité. La sagesse divine est révélée, les amis, par le Saint-Esprit. Maintenant, bien cher, remarquez ceci. Il y a trois étapes dans ce processus. Les trois étapes de la diffusion de la sagesse divine, qui sont trois grandes vérités du christianisme. La première de ces étapes, c'est la révélation. Je vous les donne tous les trois. La deuxième, c'est l'inspiration. Et la troisième, c'est l'illumination. La révélation, l'inspiration et l'illumination. Mon prochain premier sous-point, je l'ai appelé « Cette diffusion se fait par la révélation ». Examinons cette première vérité au verset 10 de notre texte. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit ». Waouh ! « Révélé » vient du grec « apokalypto », terme bien connu de tous, duquel est dérivé « apocalypse », qui veut dire « mettre à jour ». Découvrir, révéler ce qui était précédemment caché, dévoiler quelque chose qui était voilé. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. C'est cela la révélation, les amis. L'action de faire connaître ce qui est inconnu. Paul dit au verset 10, « Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu ». Le Saint-Esprit étant la troisième personne de la Trinité, il est Dieu, il est omniscient, et il est celui qui connaît les pensées profondes de Dieu. Et de ce fait, nous sommes bien d'accord qu'il est aussi le mieux à même de nous apporter la connaissance de la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous a révélé, qui nous apporte la révélation de Dieu. Il est celui qui nous apporte l'information dont nous avons besoin. Il est celui à qui Dieu le Père a confié la transmission des écrits. C'est lui qui a inspiré la rédaction de la Bible. Maintenant, Paul va illustrer son propos au verset 11. Il dit ceci, regardez. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. » Alors, permettez-moi de vous illustrer à quoi cela ressemble. Même si vous êtes un de mes meilleurs amis, vous et moi ne me connaissez pas aussi bien que je me connais moi. Moi et moi connaissons les choses à mon sujet que vous ne connaîtrez jamais. Et vous connaissez des choses vous concernant que je ne connaîtrai jamais. Nous sommes bien d'accord. Il est évident que le seul qui soit en mesure de connaître les profondeurs de ma personne, c'est mon esprit. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Alors, voilà de quoi Paul parle dans ce verset. C'est juste une illustration. Regardez la fin du verset 11. Il dit donc « de même ». Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, voyez-vous, l'Esprit Saint connaît les profondeurs de Dieu, tout comme l'Esprit de l'homme connaît les profondeurs de l'homme mieux que quiconque. Ainsi, Dieu ne nous a pas envoyé un messager de second rang. Il a envoyé le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Nous voyons ensuite comment le Saint-Esprit délivre la révélation. Regardez le verset 12. Ceci est excellent. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Chers amis, soulignez ce mot reçu dans vos Bibles, faites-y un cercle, faites tout ce que vous voulez. Hein. C'est un mot extrêmement important. Quelqu'un m'a dit un jour que la Bible n'était que des opinions d'hommes. Regardez bien 1 Corinthiens 2:12, Paul dit clairement, nous l'avons reçu. D'autre part, il est important de souligner que le mot « nous » se réfère ici aux apôtres et aux rédacteurs de la Bible. Si donc les apôtres l'ont reçu, il est certain que ceci leur a été donné. Regardez la fin du verset 12. « Afin que nous connaissions les choses, regardez la suite, que Dieu nous a données. » Je pose la question, d'où vient la Bible, les amis? D'où vient la Bible? Elle nous a été donnée par Dieu. Et qu'ont fait les apôtres? Ils l'ont reçue par l'Esprit de Dieu et nous l'ont transmise par écrit. Maintenant, avoir la révélation, c'est une chose, mais la comprendre en est une autre. D'où la question suivante, comment accédons-nous à cette révélation? C'est l'objet de mon deuxième sous-point sur la diffusion de la sagesse divine que j'ai intitulé « Cette diffusion se fait par l'inspiration ». C'est l'accomplissement de la promesse ci-dessus qui a rendu cela possible. Nous qui l'avons reçu, nous les apôtres, nous les rédacteurs. 2 Timothée 3:16 dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu, insufflée par Dieu, soufflée par Dieu. Dieu l'a insufflée à leurs pensées. Ils l'ont reçue. La Bible n'a pas été écrite par des hommes. Elle n'est pas un assemblage d'opinions d'hommes. Elle n'est pas la vision des hommes. La Bible n'est pas un ensemble de commentaires d'hommes sur certains actes de Dieu. Elle a été reçue de Dieu. Elle est un don qui nous a été porté par le Saint-Esprit. C'est aussi important que cela, les amis. Remarquez ceci à la fin du verset 12. Ces écrits nous ont été donnés par grâce, non pas gagnés, non pas mérités, mais juste gracieusement donnés. Le verset 13 continue avec la même pensée. Il dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Arrêtons-nous ici. Lorsque Paul dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Je repose la question, de qui sont ces discours et ces paroles contenues dans la Bible, les amis? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible, mes amis. Il est certain que ces versets enseignent clairement que les Écritures, la Bible, nous a été transmise par le Saint-Esprit. Nous devons assimiler cela, c'est vraiment basique. C'est ce qu'on appelle l'inspiration verbale. Certains disent, Dieu a inspiré des pensées globales, puis les rédacteurs ont fait leur propre composition, utilisant leurs propres mots et construction de phrases. Cela est faux, les amis. S'imaginer que des pensées puissent être transmises sans mots, ça n'a pas de sens. Imaginez que je vous transmette ma pensée, je vous donne quelques lettres A, B, C, P, Q, R. Alors, composez les mots. On aura 200 versions ce matin, voire plus. Ce n'est pas possible. Le verset 13 dit, nous en parlons, non pas, dit-il en insistant, avec des discours ou les mots qu'enseigne la sagesse humaine. Nous ne vous parlons pas avec des mots qui sont les nôtres, mais avec des mots que le Saint-Esprit nous a gracieusement donnés, tout comme la révélation de Dieu d'ailleurs. Ces écrits sont par-dessus tout issus du Saint-Esprit, inspirés, insufflés par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous prenons le temps ici à l'EEG pour étudier ces versets dimanche après dimanche. Ceci en a fait une autre, notre marque de distinction à nous. Nous l'avons fait car nous avons la certitude que chaque mot qui vient de ce livre sort de la bouche même de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert, dans Matthieu 4:4, Jésus n'a pas simplement cité Deutéronome 8 en disant « Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de chaque principe général qui sort de la bouche de Dieu. » Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci « Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dieu leur a donné des paroles, des mots. Ils ont rédigé des mots. Cela est l'inspiration, Dieu qui insuffle dans leurs pensées des paroles. Toute écriture est inspirée, non pas toute pensée, mais toute rédaction a été inspirée. Tous leurs écrits étaient inspirés. Dieu est celui qui a choisi et donné des mots, des paroles. Aujourd'hui, toute personne, quelle que soit, peut détenir une Bible et même plusieurs versions. Certains l'ont lu, ils ont conclu que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Il frappe quelquefois à votre porte. Vous voyez de qui je parle. Car avoir la révélation, avoir l'inspiration, c'est une chose. Mais sans illumination, les amis, on ne va nulle part. D'où mon prochain sous-point que j'ai intitulé « Cette diffusion se fait par l'illumination ». Les versets 14 à 16 montrent clairement que nous pouvons posséder une Bible sans la comprendre du tout. Le verset 14 nous dit « L'homme animal, autrement dit l'homme charnel, l'homme qui n'a rien d'autre que cette humanité qu'il a reçue. Il vit dans ce monde physique constitué de matière physique, qui ne peut connaître Dieu, qui ne peut ni sentir ni saisir Dieu, qui ne peut sortir de sa petite boîte. » Notre verset continue en disant qu'un tel homme ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez plaquer une Bible devant son nez, les amis, il ne fera aucune différence. Il ne la comprend pas, tout comme il ne comprendra même pas le sens de ce qui s'y passe. Car pour lui, ceci est folie. Car il ne peut la comprendre, les amis. Ce n'est pas possible. C'est spirituellement qu'on l'évalue. C'est spirituellement que la Bible est estimée. C'est spirituellement qu'elle est jugée. Et c'est aussi spirituellement que la Bible est discernée. Cependant, l'homme animal, l'homme naturel, l'homme charnel est spirituellement mort. Dans le psaume 119, verset 18, le psalmiste dit une prière magnifique. Il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ô Seigneur, ouvre mes yeux afin que je comprenne les merveilles de ta loi. » Il n'est pas simplement question que Dieu nous donne sa loi. Dieu doit aussi ouvrir les yeux de notre entendement, de notre compréhension. L'Esprit de Dieu doit illuminer nos pensées. La vérité est disponible, mais seuls ceux qui sont éclairés par l'Esprit comprendront cette vérité. Ce n'est pas gérable pour l'homme naturel, car il n'a pas l'Esprit Saint. Quand bien même il posséderait une Bible entre ses mains, quand bien même il détiendrait la révélation, quand bien même il détiendrait l'inspiration, sans illumination, les amis, cela n'a aucun sens pour lui, car il n'a pas l'Esprit Saint. Le verset 15 continue en disant, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Celui qui possède l'Esprit, celui en qui réside l'enseignant de la vérité, celui en qui réside la référence, le Saint-Esprit, celui en qui réside l'onction, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Regardez avec moi 1 Jean chapitre 2, les versets 27. Nous lisons ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point en mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Si vous êtes en Christ, le Saint-Esprit habite en vous. C'est lui l'enseignant résident. C'est lui qui évalue. Et par le Saint-Esprit, nous prenons la parole de Dieu. C'est alors qu'il nous la rend vivante. Il nous la rend sensée. Et ceci est vrai pour tous les chrétiens véritables. Oui, tous les chrétiens. Le monde ne connaît pas la vérité. Le monde ne peut pas connaître la vérité. Vous et moi connaissons la vérité, car l'Esprit de Dieu agit en nous, et c'est lui qui nous enseigne la vérité et qui fait en sorte que cette Bible nous soit devenue vivante, les amis. Nous pouvons l'examiner, nous pouvons en juger, car le point de référence, le Saint-Esprit est en nous. Puis Paul ajoute une pique à la fin du verset 15. Il n'est lui-même jugé par personne. Nous pouvons le juger car nous sommes spirituels. Cependant, personne ne peut nous juger. Ce mot est à voir dans le sens de l'évaluation. Avez-vous déjà constaté combien il est difficile pour les non-croyants qui nous entourent de nous évaluer, nous chrétiens? Ils ne savent que dire de nous. Ils ne savent que dire de ce que nous sommes. Lorsque nous répondons aux questions qui nous sont posées, c'est alors que le monde réagit en disant « Comment pouvez-vous? Comment osez-vous? Pour qui vous prenez-vous ?» et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous savez de quoi je parle. Il n'y a aucun moyen qui permettrait à un homme naturel d'évaluer un homme spirituel. Aucun. Il ne peut pas nous connaître. Accrochez-vous. Il ne peut pas nous connaître de la même manière qu'il n'a pu connaître Christ. Qu'ont-ils fait de Christ? Ils l'ont crucifié. Que vont-ils faire de nous? Plus ou moins la même chose. Se moquant de nous, nous qualifions de fous. Dans certains pays, cela va plus loin, c'est la mort garantie. Et la raison en est simple. Paul cite Ésaïe 40:13 pour appuyer ce point au verset 16. Il dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ ». Peut-être vous ne le saviez pas. Nous qui croyons en Jésus-Christ avons cette pensée-là. Les incrédules ne peuvent pas nous comprendre comme ils n'ont pas pu le comprendre lui. N'est-ce pas excellent de savoir que la raison pour laquelle le monde est confus en notre sujet, c'est parce que nous avons la pensée de Christ? Waouh! Je suis un aussi grand mystère pour le monde au même titre que Christ l'a été. C'est une bonne compagnie, les amis. Je suis content pour cela. Et vous devez vous réjouir pour cela. Vous avez cette pensée. Conclusion. Le tout se termine joliment, n'est-ce pas? Paul dit simplement que la raison humaine ne peut connaître Dieu. L'intelligence humaine de l'homme naturel ne peut pas accéder par les moyens qui lui sont propres. Car Dieu doit se révéler. Dieu doit se révéler en trois étapes. Le Saint-Esprit doit le révéler, doit l'inspirer, doit l'illuminer. Afin que nous puissions le comprendre et l'accepter dans nos vies. Puis le point de référence vient se loger en nous. Et nous connaissons la vérité car l'Esprit de Dieu est notre enseignant, agissant en chacun d'entre nous, n'est-ce pas un grand encouragement pour nous ce matin? Amen. Si vous êtes en Christ ce matin. Je rappelle que la marque d'une vie chrétienne épanouie est un fort attachement aux écrits et à la lecture et à la méditation de la Bible. C'est par ce biais qu'une communion continue se fait avec Dieu par le Saint-Esprit. Le EIG lui contribue. J'ai quelques plans à montrer. Alors, est-ce si les techniciens ne dorment pas? Alors, donc, l'EIG y contribue avec la mise en place des groupes de maison pour favoriser cela, en plus des enseignements du dimanche matin. C'est important de rester en communion, de se laisser ainsi transformer afin que nous ne soyons pas conformistes comme l'ont été les Corinthiens. Il est aussi de notre responsabilité, et j'aimerais bien le souligner, de propager cette bonne nouvelle de la merveilleuse sagesse de Dieu. Si vous n'êtes pas croyant ce matin et que vous êtes là au milieu de nous, lorsque nous disons que le monde ne connaît pas la vérité, nous ne souhaitons aucunement que les choses restent telles quelles. Nous souhaitons que les choses changent. Raison pour laquelle nous présentons ces enseignements. Nous souhaitons que vous sachiez que la vérité est en Christ et souhaitons que vous veniez à lui. Si vous pouviez ouvrir vos cœurs maintenant pour recevoir Christ et croire en sa mort et à sa résurrection, alors vous connaîtrez la vérité qui vous affranchira immédiatement ce matin. Ceci marquera la fin de votre quête, car vous serez désormais au repos.